Valentin Dauchaud, ce vendredi, c'est un petit événement quand même, un gros événement dans le monde musical. Enfin, ça dépend de quel âge on a éventuellement, puisque c'est la sortie d'un nouvel album d'ABBA, qu'on attendait finalement plus tellement. Et surtout, ABBA, et vous le rappelez dans la Libre Belgique du jour, c'est d'abord et avant tout un parcours assez incroyable, un peu en dents de scie, hein.
Absolument filou, c'était complètement inattendu. 40 ans tout de même que leur dernier album était sorti. Si on commence, pour faire patienter nos auditeurs, par revenir sur le parcours du groupe, technique marketing bien connue, c'est Philippe.
Disons.
En fait, rien ne s'est réellement passé comme prévu. Savez-vous, Philippe, combien de points la Belgique a accordé à ABBA ce fameux soir de 1974 lors du concours Eurovision de la chanson ?
Pour la chanson Waterloo.
Pour la chanson Waterloo.
Bon, je sais pas, j'en sais rien, donc je vais taper au milieu, 5 points.
Zéro.
Ah oui, quand même.
Royaume-Uni pour ABBA, 0 points. Italie, 0. Et je peux continuer comme ça pendant longtemps.
Pourtant, Waterloo, on aurait pu être sympa quand même et donner quelques points.
Alors, on aurait pu être sympa et donner quelques points. Il se fait qu'à l'époque, tout le monde prend ce groupe pour un chouette petit truc sympathique. Alors, il y a un schisme qui se fait tout de suite. Le public adore. Ouais. Il y a quelque chose qui se crée. La critique, le milieu de la musique, l'intelligentsia, les intellectuels n'aiment pas trop. Pour une raison assez simple, on est à l'époque pas du tout dans une ère de musique commerciale. On est plutôt sur du hard rock, quasiment du punk, qui arrive dans ces années-là, milieu des années 70, avec des paroles engagées. ABBA, c'est tout l'inverse de la musique. Pour faire plaisir.
C'est du feel good.
Pour faire danser du feel good, comme on dit horriblement aujourd'hui, et qui ne se veut pas du tout un groupe engagé. Et donc Waterloo arrive, ouais, le public fonctionne, d'accord, il faut attendre 75. Et un nouvel album, mais surtout les hits Mamma Mia et autres, pour que vraiment, à ce moment-là, tout le monde réalise qu'on tient quelque chose. Il a fallu quand même 18 mois à ABBA après l'Eurovision pour percer au Royaume-Uni. Et là, pendant 3 ans, ils sont en état de grâce. Les hits s'enchaînent, on a Dancing Queen, Gimme Gimme...
Oui, à l'époque, on racontait que c'était la plus grande industrie d'exportation suédoise après Volvo, je crois. Donc, c'était phénoménal.
On leur a reproché, justement, parce qu'il faut savoir qu'ABBA avait initialement enregistré Waterloo en suédois. C'est moins porteur à l'extérieur. Mais les Suédois eux-mêmes étaient vexés que le groupe ait préféré l'anglais. Le soir de l'Eurovision, on a envie de leur donner raison parce qu'on connaît le succès qui a suivi, mais en Suède c'était compliqué, on les accusait d'être mercantiles, de vouloir s'enrichir, tout revient toujours à cette question commerciale du groupe qui perce, qui atteint à un moment une espèce d'aura incroyable fin des années 70, et là c'est le drame.
Catastrophe, c'est-à-dire que c'est en fait le groupe va splitter parce que les couples vont splitter.
En fait, le couple était un peu trop lisse pour l'époque, hein, deux couples, homme-femme, mari-femme, et là il y a deux divorces en 78 et en 80. Et d'après le biographe du groupe, le biographe pour la francophonie du groupe, Jean-Marie Petit, que nous avons interviewé pour notre article, ABBA a toujours misé sur l'authenticité, une espèce de joie de vivre qui se retrouve dans leur musique, mais qui était aussi un peu quelque part leur personnalité à la base. À partir du moment où on a les deux divorces, le groupe se perd, il tente encore deux albums qui sont plus sombres, qui ne collent plus du tout. Ouais. Et puis surtout, Philippe, on arrive dans les années 80, le son a changé, les looks ont changé, l'ambiance a changé, c'est la new wave, les looks sombres, les paroles dures qui correspondent à cette époque, et ABBA est complètement hors contexte.
Voilà, alors ils vont disparaître, je dirais, des nouveautés, mais ils vont rester dans le cœur de pas mal de monde. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au final, ils vont finir quand même par avoir la reconnaissance de leur père. Ça aura mis du temps, il aura fallu qu'ils traversent le désert, comme Priscilla, la reine du désert, mais ça a fini par faire un peu l'unanimité, on va dire.
Alors, ce qui est incroyable, c'est que là, on se dit, dans les années 80, c'est bon, c'est fini. Ils ont plus 10 ans, ils ont eu leur parcours génial. La pop
les deux dames se sont essayées à des petites choses en solo, mais sans grand succès.
Les quatre ont tenté du solo, avec plus ou moins de succès. Et il se produit quelque chose d'incroyable. Pendant 10 ans, dans toutes les années 80, les fans durs continuent à les suivre, la communauté gay continue à les faire vivre, mais dans le grand public, on s'y intéresse assez peu. Et en 1992, la maison de disques Polydor, qui a racheté le catalogue et qui essaye de rentabiliser son investissement,
c'est normal,
tente quand même le coup du best-of, sort ainsi en 1992 ABBA Gold. On y croit à moitié, et ABBA Gold s'écoule finalement à 30 millions d'exemplaires. Alors, il y a deux éléments qui entrent en ligne de compte. Le premier élément, c'est que tout est toujours cyclique. Ouais. 20 ans après, ABBA retrouve un certain intérêt, retrouve une certaine couleur, retrouve presque une certaine modernité dans tout ce qu'il a de désuet. Et donc, le public s'y intéresse. La deuxième chose, comme vous le disiez, c'est que les artistes, finalement, 20 ans après, assume totalement l'impact et l'importance musicale de ABBA.
Oui, avec des gens qui se déclarent avoir été influencés par eux, mais de manière totalement improbable aussi.
Alors là, c'est surréaliste. D'un côté, on a Bono de U2 qui, dans les années 90, est vraiment au sommet, qui reprend sur scène Dancing Queen avec les membres du groupe original quand il passe par Stockholm.
Mon avis personnel, c'est que c'est quand même le meilleur du groupe. Mais bon, c'est personnel.
On est assez d'accord. Mais ça se passe. On a également Pete Townshend du groupe The Who, ouais, ou Glenn Matlock des Sex Pistols, qu'on soupçonne
ça,
rarement
étonnant,
d'être des fans.
Les Sex Pistols, oui, c'est l'antithèse.
Mais qui arrive, en fait, les Sex Pistols arrivent quelques années après ABBA, donc il y a une cohérence, et tous deux se revendiquent du groupe. L'un estime que le morceau SOS est l'un des plus grands titres jamais enregistrés. L'autre reconnaît même s'être inspiré de la mélodie de SOS pour créer certains morceaux des Sex Pistols. Et donc, on a cette espèce d'émulation. Le cinéma s'empare de ABBA dans les années 90, de nouveau. Et il y a trois éléments intéressants. ABBA revient dans la lumière et capitalise très intelligemment là-dessus. 1999, ils acceptent de lancer une comédie musicale. Mamma Mia,
qui est le film qui va arriver plus tard.
Un succès colossal. Dix ans après, 2008, le premier film. Succès colossal. 10 ans après encore, 2018, la suite du film.
Ouais.
À nouveau le succès. Et finalement, on est quasiment aujourd'hui.
On est aujourd'hui avec deux singles qui sont déjà sortis il y a quelques semaines maintenant. Et donc cet album qui sort ce vendredi. Alors voilà, je sais bien que vous avez dit qu'il y avait deux camps pour commencer. Mais ça donne quoi ce nouvel album d'ABBA ?
Ah !
Silence.
C'est difficile.
Ouais.
C'est difficile à...
Difficile parce que ce groupe est un monument, donc voilà.
C'est difficile à écouter, c'est difficile à chroniquer. On sait que 40 ans après avoir pris le micro pour la dernière fois, on ne va pas avoir du ABBA d'origine. Ce sont vraiment les voix maintenant des chanteuses qui ont plus de 70 ans.
Ouais.
Tout a été écrit et composé par le groupe.
C'est de l'authentique.
C'est authentique, c'est sincère. On a envie de dire que ABBA fait du ABBA sans éviter le kitsch, mais sans se ridiculiser. C'est-à-dire qu'on a à la fois des ballades complètement désuètes, évidemment, mais qui tiennent la route. Les voix sont là. On a des morceaux un peu plus pop qui tiennent la distance. On retrouve par moments des bribes d'émotions ou des bribes de ressentis qu'auraient pu avoir nos parents à l'époque, mais pour être tout à fait honnête, effectivement, avec une oreille moderne, ça fait un peu chant de Noël. C'est la saison, vous me direz.
Oui, bien, il faut préparer ça. Ça tombe bien, ça tombe plutôt bien, mieux pour ça qu'en été.
Oui, c'est en juillet, ça aurait été compliqué à vendre. Je pense que le porte-parole francophone du groupe qui nous donnait une interview pour l'article paru ce vendredi, Jean-Marie Potier, disait voilà, ils ont toujours été authentiques et sincères, ils le restent, et je pense qu'ils assument complètement le côté kitsch et désuet, d'autant plus que cet album finalement n'était pas prévu. À la base, il était question de lancer une tournée en hologramme. Les membres du groupe l'ont toujours dit, ils ne remonteront pas sur scène. Les gens veulent voir ABBA et pas quatre petits vieux retraités, ont-ils dit, et je cite.
C'est très clairvoyant, je trouve, de leur part.
Et c'est assez clairvoyant.
Il y a beaucoup d'humilité là-dedans.
Il y a beaucoup d'humilité là-dedans, et donc cette tournée a fini par se mettre en place, pas en hologramme parce qu'ils ont jugé le résultat technique peu probant, mais avec une technologie empruntée à une société créée par George Lucas, le réalisateur de Star Wars, en capteur de mouvement en 3D qui se déclinera dans le monde entier. L'album est un bonus. Ils avaient initialement annoncé deux morceaux qui sont sortis. Finalement, ils sont tellement amusés qu'ils ont fait tout un album. Et on a un peu le sentiment qu'ils se disent, finalement, si tout le monde déteste, tant mieux pour eux.
Voilà. En attendant, s'ils en ont vendu, c'est toujours le point, c'est toujours un bonus, quoi. Voilà. Voilà. Dites-moi alors, si c'est un truc en 3D, etc., cette tournée, quoi, ça veut dire que ils vont se mettre dans un coin, ils vont jouer, et puis on va diffuser ça en live dans toutes les salles de concert du monde en même temps?
Non, eux, ils restent peinards à Stockholm. Hein.
Ah, d'accord.
Okay. Ils ne montent plus sur scène. Tout a été enregistré dans un studio londonien, ouais. Où les quatre membres du groupe ont été affublés de tenues bardées de capteurs.
Oui, comme on voit dans les reportages sur les créations de jeux vidéo, par exemple.
Exactement, à la façon d'un jeu vidéo. 160 ouais. caméras ont capturé leurs mouvements, littéralement. Ils ont rejoué un concert de 1979. Donc les visages que vous verrez en 3D sont les visages du groupe de la fin des années 70.
On les a isolés et recollés quelque part sur des images, quoi.
Exactement, pour finalement adapter l'univers du groupe à la nouvelle technologie. Une salle de concert qui sera installée à Londres à partir de 2022 a été entièrement conçue sur mesure pour cette technologie. Une autre salle amovible sera utilisée dès 2023 pour une tournée internationale. Donc oui, expérience unique. On aime, on déteste. Les musiciens, eux, verront ça de chez eux.
À découvrir donc, si le cœur vous en dit. Merci Valentin.
Merci Philou.